Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance.
Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui, comme moi, commence à vraiment être en manque de restaurants. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Philibert. Vivement la réouverture des restos.
Alors Daniel, on va aborder un sujet original aujourd'hui. On a reçu dans cette édition spéciale beaucoup de chefs, de restaurateurs qui ont partagé avec nous les difficultés liées à la fermeture de leur établissement. Aujourd'hui, chose singulière, on va parler d'un restaurant qui s'est lancé en plein confinement. Plus exactement, il s'agit d'un restaurant californien, très attendu par les foodistas de la capitale, qui devait ouvrir le 17 mars, donc le premier jour du confinement. Nous sommes aujourd'hui avec Capucine Frère-Jean et Juliette Fossorier, les fondatrices de Cali Sisters. Bonjour Capucine, bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors Capucine, Juliette, dans cette édition spéciale, on s'intéresse particulièrement à la réaction des entrepreneurs du secteur face à la crise. Dans votre cas, on aimerait comprendre comment on arrive à pivoter et lancer du jour au lendemain une offre de livraison de click and collect sans aucune base de clients, sans notoriété, puisque par définition, votre restaurant n'était pas encore ouvert et que personne n'avait pu goûter vos plats. Mais j'aimerais qu'on commence avant ça par rappeler ou présenter, enfin, vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter votre concept, voilà, quelle est l'inspiration, le type de cuisine, l'ambiance.
Alors avant tout, pour te répondre, on est deux sœurs qui sommes tombées amoureuses de la Californie, ouais. À tel point qu'on a voulu la recréer à Paris avec notre restaurant Cali Sisters. On devait ouvrir le 17 mars, pas de bol. Dans ce contexte, comment faire vivre la Californie à Paris? Comment exister avant même d'avoir ouvert? C'est la question qu'on s'est posée. Comment recréer la Golden Light dont on était tombées amoureuses en Californie? Créer ouais. Notre image à l'image de la cuisine californienne, à savoir vraiment gourmande, mais vraiment saine à la fois, équilibrée, très généreuse. Et surtout, comment infuser la bienveillance et le care qu'on a retrouvé là-bas dans chaque détail de notre projet, mais pas dans son lieu tel qu'il aurait dû naître. Pour nous, un art de vivre, c'est à la fois un lieu, une cuisine et de l'humain. Et c'est donc un restaurant qui vient se faire rejoindre ces trois choses le mieux. Et c'est la meilleure incarnation de l'art de vivre tel qu'on l'a adoré en Californie. Et c'est comme ça que Cali Sisters est né.
Et j'avais juste une question avant d'approfondir. Il existe aujourd'hui des restaurants californiens à Paris. Est-ce que c'est une cuisine typique qui est représentée dans les capitales ou...
Alors, c'est une cuisine qui clairement est à la... pour nous, à la pointe des tendances, mais tendance long terme. Donc, il y a quelques restaurants californiens, dont certains avec qui on est copains dans le coin. Ouais. Maintenant, c'est souvent assez journée californienne et ils le font très bien. Nous, l'idée, c'est de vraiment avoir un lieu qui va vivre et dont l'énergie va évoluer avec tous les moments de la journée, du matin au soir. Et ça passe des premiers smoothies et wellness latte le matin aux derniers cocktails les plus festifs et grandes pièces de viande et grands plats à partager le soir.
Et justement, en fait, Philibert, il parlait en intro de la date des lancements prévus pour Cali Sisters qui était le 17 mars. Alors, on aimerait peut-être revenir en arrière et comprendre comment vous avez vécu cette annonce, parce qu'on imagine beaucoup d'excitation avant de l'ouverture d'un resto. Et malheureusement, pas de chance, trois jours avant, un décret qui vous empêche d'ouvrir le resto. Comment vous avez vécu ces moments-là et qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelle a été votre réaction par rapport à cette situation?
Alors, je vous confirme que c'était un petit peu l'ascenseur émotionnel. Nous, ça faisait plusieurs mois qu'on était en travaux pour faire le lieu le plus canon possible qu'on avait en tête. Donc, on était vraiment dans la dernière ligne droite, en train de préparer l'ouverture avec tout ce que ça comporte. Et je pense que les restaurateurs qui nous écoutent savent exactement ce que c'est. Juste avant l'ouverture, donc la semaine qui a précédé le 17 mars, on a senti que le vent commençait à tourner et avant même l'annonce de fermeture qui a été faite le samedi, on avait décidé deux jours avant de ne pas ouvrir. Pour nous, à ce moment-là, on se disait que ça n'avait pas de sens d'ouvrir notre restaurant qui est, comme ce que disait Juliette, un restaurant good vibes, chill, bienveillant. Et en fait, on était en train de rentrer dans un contexte assez anxiogène et on s'est dit que c'est pas le moment on attend de voir déjà combien de temps va durer la vague et puis on essaie de la laisser un peu passer. Nous, notre premier réflexe, du coup, enfin, on a dû réagir très très vite. On avait une vingtaine de personnes qui arrivaient le vendredi, qui a précédé la fermeture des restaurants. On a dû, et ça n'a pas été très agréable, les contacter tous pour leur dire que elles ne nous rejoindraient pas le lendemain puisque nous repoussions l'ouverture. C'était clairement une grosse source de frustration parce qu'on avait promis une super aventure à ces personnes-là.
Quand tu dis personne, c'est du personnel, là, c'est ça?
Oui, du personnel, ah,
d'accord,
exactement.
D'accord, ouais. Donc, les personnes étaient recrutées, les travaux étaient terminés, la déco était en place, la carte était en place, et là, il a fallu...
Alors, tout était en place. Ouais. En l'occurrence, on a une situation un peu hybride, puisque on avait une quinzaine de personnes qui étaient recrutées pour la cuisine principalement, et puis pour les postes managériaux en salle. Ouais. Donc, ces personnes-là, elles ont été recrutées quelques semaines avant, quelques semaines avant, en l'occurrence, une semaine avant. Et toutes les personnes qui arrivaient en salle, on leur a dit qu'on attendait de voir pour les recruter. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a annoncé à l'équipe qui était déjà arrivée qu'on passait tout de suite en chômage partiel, parce que tout de suite avec Juliette, nous on s'est entendu sur le fait qu'on ne licencierait personne, même s'il était arrivé seulement 5 jours plus tôt. Donc voilà la réaction un petit peu à chaud à l'annonce des fermetures des restaurants.
Et du coup, tu parles donc d'une quinzaine, d'une vingtaine de personnes. Je n'avais peut-être pas pris conscience en fait de l'ambition du restaurant. C'est combien de couverts en fait? C'est quelle taille? Parce que ça fait quand même beaucoup de personnel. Donc, quelles étaient les ambitions avec Alice Sisters et combien de couverts par jour vous imaginez vendre au début?
Alors pour répondre à ta question, on est un restaurant qui fait une centaine de couverts. Et qui avait vocation à être ouvert, comme le disait Juliette, du matin au soir. Donc, ouverture à partir de 8h30. On est à Bourse, donc dans un quartier où il y a notamment pas mal de bureaux. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette énergie qui vraiment évolue tout au long de la journée. C'est ce qu'on a adoré en Californie, d'autant plus qu'on était dans un quartier qui s'y prêtait. On est ouvert de 8h30 à minuit. Ça, plus le fait qu'on a une centaine de couverts, ça a créé pas mal de besoins en cuisine comme en salle, puisqu'il y a plusieurs rotations aussi. Ensuite, c'est important de préciser qu'il y a une bonne partie de ces personnes-là qui étaient des personnes à temps partiel, puisque nous, ce qu'on adore en Californie, c'est le care, c'est la bienveillance à l'américaine, à la californienne. Et donc, on a pas mal d'étudiants américains dans notre équipe. Et ces personnes-là, c'est des étudiants, donc ils sont à temps partiel. Donc, sur les 35 personnes, il y avait une bonne partie à temps partiel.
Et du coup, donc, la première réaction, c'est vous avez... J'ai pas bien compris, d'ailleurs. Le personnel qui devait arriver, vous l'avez mis en chômage partiel ou c'est malheureusement des contrats qui n'ont pas démarré? J'ai pas bien compris.
Alors, ouais. Il y a ceux qui sont arrivés qu'on a mis en chômage partiel, et ça, c'était une quinzaine de personnes. Et tous ceux qui devaient arriver juste avant l'ouverture du restaurant pour les fonctions de salle principalement, on leur a dit de pas venir. Et en revanche, c'est des gens qui vont commencer avec nous dès la réouverture du restaurant.
D'accord. Et du coup, après les décisions, comment ça s'est enchaîné? Donc, il y a la première réaction à chaud, on n'ouvre pas. On va en parler après. Vous avez lancé la livraison, mais ça vient assez récent. Et entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, indépendamment de l'équipe, effectivement, qui était vraiment notre priorité, notre premier réflexe, ça a été de bloquer un peu toutes nos dépenses, d'abord. Puis très vite, on a fait un peu le point sur notre trésorerie avec Juliette. On a priorisé toutes les dépenses et les décaissements à venir pour pouvoir payer en premier les fournisseurs qui étaient le plus dans le besoin. Et donc ça, on a un petit peu fait un calendrier pour toutes les dépenses qui allaient venir. Et puis ensuite, suite à effectivement cette frustration, très vite, avec Juliette, on tient pas beaucoup en place. On était vraiment au démarrage de notre projet. Et donc, on a vraiment envie d'avancer. Donc très vite, on s'est posé la question de comment avancer autrement. Et à partir de là, on a commencé à faire plusieurs scénarios sur la sortie, sur comment exister pendant la crise. Et c'est là qu'est née l'idée de la vente à emporter, de la livraison qu'on a mis en place à partir de mai.
D'accord. Et vous avez fait tout de suite. C'est vente à emporter, livraison, click and collect. Tout a été mis en place en même temps ou ça s'est fait par séquences différentes?
Non, on a tout lancé en même temps sous le nom de Kelly Sisters at Home. Kelly Sisters at Home, ce dont on n'était pas mécontente parce que pour rien vous cacher, c'est très proche de notre ADN et de nos valeurs. Les restos californiens, des restos californiens comme on les a aimés, à savoir des lieux hybrides, vibrants toute la journée. Nous, en fait, on a toujours été très inspirés par les restos californiens qui mélangent plein de choses, à savoir le restaurant, bien sûr, mais un espace traiteur, une petite épicerie, une boutique de déco, de homeware. Donc, c'est des restos qui vont assez loin dans l'art de vivre et dans ce qu'il propose d'énergie dans la journée. Nous, pendant le confinement, on s'est rapidement dit, on tient là une opportunité de nous développer sur cet axe plus vite que prévu, mais ce qu'on avait prévu depuis pas mal de temps, en fait, comme le développement naturel de Kelly Sisters. Et voilà, et en fait, c'est toute la vie autour du restaurant, mais qui n'est pas le restaurant lui-même et qui nous excite tout autant.
Pardon, c'est ça qui est compliqué, en fait, parce qu'on discute avec des restaurateurs qui ont des restaurants depuis des années, qui ont créé une vraie image autour de son restaurant. Les gens connaissent, les gens, ce sont des habitués. Donc, pour ces gens-là, consommer à la maison, c'est peut-être un peu plus naturel, même si eux, déjà, ils trouvent difficile de recréer l'ambiance du resto à la maison. Je suppose que pour un restaurant qui n'a jamais ouvert, en fait, finalement, et qui tout de suite doit se lancer en livraison et cliquer collecte, c'est encore plus difficile parce qu'il n'y a pas des repères, en fait. Les gens, ils ne connaissaient pas ce qu'était l'expérience au sein des Kelly Sisters, donc c'est encore plus compliqué de se projeter dans ce qui pourrait être l'expérience à la maison.
Tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, c'était vraiment au cœur de notre réflexion. On savait que personne nous attendait. Et donc, on s'est dit, si on commence à exister de cette façon, il faut qu'on propose quelque chose de top, voire d'encore mieux que les autres, parce que, comme je disais, personne nous attend. Donc, en fait, on a tout fait pour que la qualité de la cuisine qu'on fait dans la vente à emporter soit d'une qualité vraiment irréprochable. Donc, on a vraiment réfléchi au packaging,
au sourcing des produits,
bien évidemment, à la façon de les envoyer. C'est vrai que pour l'instant, on s'est lancé il y a 2 semaines, on a eu quasiment que des retours excellents sur la qualité de la cuisine dans ce qui a été reçu en livraison. C'est un premier retour très positif. Et aussi, on s'est rapidement dit, encore une fois, il faut absolument qu'on fasse quelque chose où on va pouvoir être ouvert au plus grand nombre. Et donc, on n'a pas que fait du click and collect sur notre périmètre immédiat. On a aussi lancé la livraison dans tout Paris, plus la banlieue, histoire d'avoir ce petit plus qui n'est pas nécessairement le cas de tous les restaurants qui se sont lancés pendant la crise en click and collect.
Et juste une question, en fait, par rapport au click and collect et à la livraison. Est-ce que c'est quelque chose qui faisait déjà partie du business plan au départ, ou c'est quelque chose que vous allez peut-être pas trop accentuer au début et que tout de suite vous avez été obligé d'accélérer un peu cette transformation, ou c'était déjà depuis le départ un segment important dans votre stratégie de distribution?
Alors, pas du tout. En fait, notre idée au départ, si on ouvrait en mars, c'était de faire le restaurant, de pas faire de vente à emporter. En fait, on voulait d'abord assurer les fondamentaux, c'est-à-dire avoir une excellente offre avec une cuisine de super bonne qualité, des bons produits, une très bonne ambiance, le sourire de nos serveurs et de notre équipe, une déco qui soit telle qu'on l'a pensée pendant 4 mois, qui soit éclectique, bohème, végétale, et qui fasse vraiment rentrer nos clients dans un univers. Et donc, on se disait, pour assurer ces fondamentaux-là, on va vraiment rester là-dessus. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Comme disait Juliette, on avait déjà en tête, mais à beaucoup plus long terme, de se développer sur un segment épicerie, voire déco homeware, mais c'était des projets à plus long terme, finalement, qu'on est en train de mettre sur la table aujourd'hui et sur lesquels on travaille pour les développer plus vite que prévu. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que assez rapidement, on a réussi à pivoter, à mettre cette offre en place, alors que on l'avait pas anticipé. Et finalement, c'est plus quali que ce qu'on espérait, et on arrive à quand même faire vivre une expérience par cette vente à emporter, parce que on fait un très beau packaging, on met des petits goodies dedans, on propose une manière un petit peu différente de consommer. Ça veut dire qu'on a des plats à emporter typiques qui sont déjà cuisinés et prêts à être mangés, mais on a aussi de kit recettes avec, par exemple, le plus emblématique et qui marche très bien, c'est qu'on a des bocaux de pâte à cookies que les gens reçoivent et peuvent mettre en boule sur une plaque au four et avoir
prêt à cuire. Ah, sympa ça.
Voilà. Donc en fait, c'est plein d'idées un petit peu différenciantes où au pied du mur, on a été obligé de les avoir. Ça nous a beaucoup amusé. C'est des choses qui fonctionnent bien et on se dit, en fait, il y a une autre façon d'avoir cette expérience californienne.
Et du coup, quels ont été les résultats, en fait? Je suppose, évidemment, par rapport au business plan initial, avec 5 couverts ouverts de 8h30 à minuit, même si on fait des jolis chiffres en click and collect et en livraison, on est loin des résultats qu'on avait dans les business plans. Est-ce que tu peux nous donner déjà l'expérience ou les résultats de ces premières semaines d'ouverture? Comment vous vivez cette situation?
Bah alors, on est à plus 10 jours de Kelly Sisters at Home. Ouais. Pour le moment, notre comme le disait Capucine à l'instant, nous, notre priorité, c'était vraiment la qualité. Proposer le meilleur produit possible à la maison. Et ça, on a eu exactement les retours qu'on souhaitait. Ensuite, pour parler de commandes, on est hyper contente des premiers résultats. On a lancé sur notre site et nulle part ailleurs pour le moment. Et les retours sont top. Ça marche bien plus que ce à quoi on s'attendait. Donc, pour le moment, c'est très, très encourageant. Et c'est ce qui nous pousse à développer Kelly Sisters encore plus dans les prochaines semaines et son offre.
C'est super et c'est surtout très encourageant, je pense, pour des restaurateurs qui nous écoutent et qui se posent des questions par rapport à se lancer en livraison ou pas. Juste pour être sûr, mais du coup, vous avez quand même moins des personnels qui travaillent aujourd'hui. Je suppose que vous concentrez les personnels en cuisine et vous n'avez pas les serveurs. Et donc, du coup, vous avez arrivé à opérer avec des charges qui sont moins importantes.
Tout à fait. Nous, là, on est vraiment... en mode un peu survie entre guillemets. Donc en fait ça fait partie des questions qu'on s'est posées au démarrage, c'est si on redémarre sur ce modèle-là en attendant une réouverture des restaurants en tant que tel, il faut qu'on soit très flexible, très souple, et du coup on a notre chef qui travaille avec nous, il a un second qui travaille avec lui pour faire tous les envois au moment du déjeuner et du dîner, et puis après nous on est toutes les deux en salle avec Juliette pour envoyer les commandes, pour les mettre dans les paquets, les envoyer, appeler le transporteur. Donc, on est vraiment... Un des gros avantages de ça, c'est que, l'air de rien, ça nous fait un très bon entraînement avant d'ouvrir. Ça nous permet de découvrir un petit peu tous les aspects de notre restaurant, de nous rendre compte de plein de choses.
Les recettes, surtout.
Ouais, voilà, de découvrir les recettes et puis de les découvrir d'une autre façon. Et puis, ça nous permet bien sûr de les améliorer avant l'ouverture. Mais en tout cas, ce qui était le plus important dans notre démarche, c'était la souplesse absolue parce que oui, c'est important d'ouvrir en termes de visibilité et puis parce qu'on a envie d'être dans l'action, mais pas à n'importe quel prix. L'idée, c'est pas de perdre tout ce qu'on peut juste pour ça. Donc, il faut faire attention.
Ces jours-ci, on se repense un peu tous les matins. On repense le projet tous les matins. Comment l'améliorer? Comment? L'idée, c'est vraiment d'être capable de tout changer chaque jour, tout réajuster tout le temps, pour viser le meilleur et sincèrement l'excellence pour que nos premiers clients soient nos clients de demain quand on pourra ouvrir.
Ouais, je pense qu'en effet, le business plan, il est à la poubelle, là. Il a été revu, puis je pense que vous arrêtez de le réécrire tous les matins. Mais justement, là, donc, on vous disait que vous étiez assez content des résultats des ventes sur la partie livraison Click and Collect. Bon, vous n'avez pas donné le pourcentage, mais on voit ce que c'est. C'est un chiffre significatif, mais évidemment, ça correspond pas au CA prévisionnel que vous avez imaginé. Vous avez certainement réajusté vos charges. On imagine que vous êtes en train quand même de creuser la trésorerie. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on lance un établissement, on a claqué énormément d'argent dans les travaux, le matériel, le recrutement. En général, on est un peu fragile. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour votre trésorerie? Comment ça se passe? Est-ce que votre banquier vous a rassuré? Est-ce que vous avez dû trouver d'autres sources de financement? Négocier avec votre bailleur? Est-ce que vous avez mis en place pour protéger la trésorerie dans cette période un peu particulière?
Effectivement, comme tu disais, le BP, on le refait pas tous les matins. Clairement, le BP qui était une ouverture au 17 mars, il est bien sûr à la poubelle. Il est pas à la poubelle pour la réouverture, en revanche. On est très optimiste avec Juliette. Après, pour ce qui est de la trésorerie, très vite, et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie de nos premières réactions, c'est qu'en fait, il y a très vite une série de mesures qui ont été annoncées d'aide de l'État, notamment, bien sûr. Et nous, on s'est mise sur un mode, on active tout ce qu'on peut, on est dans une période où on a besoin de se faire aider, où c'est disponible, donc allons-y. Donc on a postulé un prêt garanti par l'État de la BPI, ouais, qu'on a obtenu, on a eu bien sûr recours au chômage partiel, il y a le fonds de solidarité qui a été mis en place pour toute la partie équipement pour la distanciation sociale sur le coronavirus, le report des charges patronales. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui nous ont vraiment aidé sur la trésorerie. Et puis du coup finalement il y a énormément de charges variables dans un restaurant, donc ça, l'air de rien, ça permet un peu d'alléger le coût. Ouais. Voilà, et enfin on a quand même une bonne variable d'ajustement.
Et on est des bonnes élèves avec Capucine, donc on regarde chaque dépense. Rien ne nous échappe en ce moment.
C'est le secret, ouais, pour vivre. C'est clair.
Ça nous apprend plus que jamais à être des bonnes gestionnaires, donc c'est un peu le baptême du feu et c'est très bien.
Et si on parle maintenant de la communication, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, parce que là, elle est vraiment clé, encore plus maintenant que vous avez une activité qui est finalement beaucoup plus digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acquisition de vos clients, elle se fait plutôt en ligne. Comment vous y êtes pris pour créer ce trafic, cette notoriété? Vous avez fait un boost sur les réseaux sociaux, vous travaillez avec une agence de com, vous avez fait du portage de plats à des journalistes, des critiques, des influenceurs. Comment vous faites pour faire émerger votre marque? Alors, comme on disait tout à l'heure, personne ne la connaissait avant le confinement.
Effectivement, là, on essaye d'être très pragmatique et de taper un petit peu. On est très très pragmatique. On essaye de taper un peu dans tous les sens. La première chose qu'on a mobilisée, c'est nos amis, notre famille, qui ont été nos premiers clients et qui ont été les meilleurs relais en bouche à oreille de Kelly Sisters at Home, notamment. Et puis en fait, l'air de rien, depuis janvier, c'est un projet dont on parlait beaucoup autour de nous, où on avait commencé à communiquer un petit peu autour de ce projet. Donc on avait cette base de gens qui nous suivaient, qui suivaient le projet, qui ont été les premiers à être nos clients quand on a lancé l'offre de livraison et de vente à emporter il y a 10 jours. Ensuite, on a effectivement fait quelques portages auprès d'influenceurs qui sont des influenceurs qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent aussi à notre vision, parce que l'idée n'était pas d'envoyer tous azimuts à des influenceurs qui nous correspondent pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Et puis il y a quelque chose de très concret aussi, c'est juste comment on active dans notre quartier directement. On a une offre vente à emporter qui est pas négligeable, et du coup, l'air de rien, c'est comment se faire connaître dans notre quartier, donc avec tous les bureaux autour, nos voisins, être visible rien que ça dans la rue. Alors on a de la chance, on a une très belle façade bleue électrique avec des beaux palmiers, des cactus, donc l'air de rien, on nous voit.
Ça c'est bien.
Les gens s'arrêtent et ils ont faim.
Les gens s'arrêtent et ils ont faim. Et puis je pense que dans notre, on a de la chance, c'est que là c'est le démarrage de l'été, et donc l'air de rien, le fait de proposer des petits smoothies, des ice lattés devant notre devanture, c'est des choses qui permettent d'avoir un point d'entrée avec nos clients. Il y a un éventail assez large de gens qu'on a touchés, et puis après ça s'élargit au fur et à mesure.
Ouais, donc vous arrivez à capter le flux naturel des passants, donc ça c'est cool quand même. C'est pas que du digital ou de l'acquisition en ligne pour faire de la livraison, il y a quand même le flux naturel des gens qui voient votre boutique, qui comprennent votre offre et qui consomment à emporter. Donc ça c'est positif.
Tout à fait. C'est vraiment deux façons de communiquer qui sont très différentes, parce qu'il y en a une qui est vraiment du très concret sur le point de vente et devant le restaurant, et puis il y a toute la partie aussi réseaux sociaux qui nous aident beaucoup, et le bouche à oreille naturel des gens qui ont commandé, qui ont aimé et qui veulent revenir et en parler à leurs amis.
Et en plus maintenant vous passez dans des podcasts, donc c'est super.
Exactement, maintenant on est business of goût, c'est voilà. Bon.
Et justement, si on parle, on aime beaucoup dans cette édition spéciale aussi parler. C'est important de comprendre en fait comment les gens ont vécu cette expérience-là, parce que ça aide à d'autres de pouvoir mettre en place des choses et se réinventer. Mais à un moment donné, on va arrêter de parler de la difficulté et parler un peu de la suite. Et notamment dans votre cas, c'était une entrée en matière qui était inattendue dans sa forme. Et je pense que vous continuez à avoir les rêves d'une ouverture comme vous aviez imaginé. Imaginez les 17 mars, qu'est-ce que vous mettez en place pour l'instant? Vous commencez à réfléchir déjà à cette ouverture, peut-être avec des mesures sanitaires qui vont vous être imposées, un peu compliquées, et vous tirez des leçons aussi de cette crise. Qu'est-ce que vous commencez à dégager de tous ces 2 mois d'une expérience assez, assez inattendue?
Alors, très bonne question. En ce qui concerne la réouverture, on l'espère très prochaine. Nous, on veut ouvrir dès que possible, donc on attend les annonces dans ce sens. Évidemment, et ça, on n'a pas attendu la réouverture pour y penser, mais on a mis en place d'ores et déjà toutes les mesures d'hygiène destinées à rassurer nos clients, à être irréprochables, nous, dans notre façon de fonctionner au quotidien, pour être un restaurant de demain, tel qu'ils vont l'être dans les semaines qui viennent. Et ensuite...
Oui, donc en fait, comme disait Juliette, nous vraiment l'idée c'est de réouvrir dès que possible. On fait tout pour préparer un restaurant qui soit qui soit conforme à ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est-à-dire toutes les mesures de distanciation sociale, le fait que notre équipe va se laver les mains toutes les 20 minutes, qu'en cuisine, on va être encore plus drastique que d'habitude. Mais on fait surtout tout pour préparer un restaurant qui ressemblera le plus possible à ce qu'on avait imaginé pour l'ouverture de mars, c'est-à-dire un restaurant qui est vibrant, qui est chaleureux le matin, énergique à midi, vibrant, convivial le soir. Et ça, malgré toutes les mesures qu'on va devoir mettre en place, on fait tout pour que ça soit pas un labo pharmaceutique, mais que ça reste un endroit où les gens ont envie d'aller. Donc ça, c'est hyper important pour nous, et c'est ce qu'on prépare et qu'on travaille dans le lieu en tant que tel, sur la déco, sur la manière dont on va accueillir les clients. Tu posais la question des leçons qu'on tire. Pour nous, il y en a. Enfin, la première, c'est de toujours rester dans l'action. L'important, c'était surtout pas se laisser rattraper par le défaitisme ou le pessimisme. En fait, très vite avec Juliette, et c'est notre, on est comme ça, donc c'est plus facile. Mais on s'est dit, il faut continuer à avancer, il faut continuer à bouger. On va pas se laisser abattre. On sait pas combien de temps ça va durer, mais il faut continuer à avancer. Donc rester dans l'action. La deuxième chose, c'était communiquer au maximum avec toute notre équipe, parce que l'air de rien, il y avait des gens qui sont arrivés dans le projet et qui ont adhéré à notre projet et à notre vision. Donc il faut continuer à les rassurer. À leur montrer le projet tel qu'il est et qui sera à long terme, et donc il faut vraiment leur montrer ça et leur montrer qu'on avance. Et puis enfin, la dernière leçon, et ça Juliette en parlait tout à l'heure et je suis d'accord avec elle, c'est que il faut être très flexible, très souple, être capable de vraiment tout changer chaque jour, avoir une grosse capacité de remise en question, et même encore plus qu'avant. C'est que en fait, même quand on pense tenir une super idée, ça n'empêche pas de la remettre en question tous les jours pour l'améliorer.
C'est clair, mais d'ailleurs, on avait posé une question, mais tu l'as un peu répondu tout à l'heure, c'est de savoir justement si le restaurant que vous allez ouvrir à la réouverture, justement, sera le même que celui que vous aviez imaginé le 17 mars. Tu nous as dit oui, mais finalement, il y a des choses qui vont évoluer, parce que tu l'as dit aussi, vous allez tirer des leçons de cette crise. Il y a forcément des choses qui vont évoluer, comme peut-être un peu plus d'ailleurs de ventes à emporter, des choses comme ça, non?
Oui, je pense que, alors déjà, effectivement, on a commencé la vente à emporter, la livraison, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui fonctionnait très bien, qui en termes de qualité tenait la route, et même plus que tenait la route, donc...
C'est gardé, ça, ouais, bien sûr.
Voilà, donc clairement, l'idée, c'est, je pense, de le continuer. Ensuite, oui, le restaurant qui ouvrira demain, ça sera pas le restaurant qui ça sera pas exactement celui qui était prévu en mars. Il y aura du gel hydroalcoolique pour les clients, potentiellement des serveurs avec des masques, une hygiène accrue, mais ça, à la limite, c'est pas plus mal. Je veux dire, de l'hygiène dans un restaurant, il y en a jamais trop, entre guillemets. Mais en fait, on veut quand même que l'expérience reste hyper chaleureuse, hyper conviviale. Et en fait, nous, ce qu'on a adoré en Californie, c'est la golden light, c'est cette sensation de bienveillance, on est accueilli. Et ça, quoi qu'il arrive, ça sera là. Et d'ailleurs, ça va énormément passer par l'humain. Et c'est là où on se rend compte qu'on a bien fait de bien choisir les gens avec qui on va travailler, parce que c'est eux qui vont être nos meilleurs ambassadeurs et qui vont permettre d'infuser cette ambiance et cette bienveillance qu'on souhaite infuser dans notre restaurant.
Super. Juliette Capucine, on arrive à la fin du podcast. On a une question qui est une question rituelle qui est plus personnelle à la fin, même si dans votre cas, on a déjà un peu la réponse. On aime demander à nos invités comment ils vivent ce déconfinement, comment ils s'organisent. Donc vous, j'imagine qu'à titre personnel, aujourd'hui, vous êtes beaucoup dans votre restaurant, vous bossez énormément. Et l'autre question qu'on pourrait vous poser pour l'adapter un peu, c'est de partager avec nos auditeurs des bons plans que vous avez découverts dans cette période, des choses qui vous ont inspiré, qui vous ont permis de traverser avec beaucoup plus d'optimisme cette période-là, des lectures, des bouquins, enfin des podcasts, des choses que vous avez découvertes.
Alors, ce déconfinement, effectivement, pour nous, il a été, bon, je pense, comme beaucoup de monde, en fait. Mais nous, vraiment, le déconfinement, ça a été sur les chapeaux de roue, puisque on a préparé le déconfinement en mettant tout en place pour notre offre Cali Sisters at Home. Et puis, le 11 mai, on était dans les starting blocks pour réouvrir le restaurant, rallumer les lumières, faire nos tests de cuisine, faire nos tests de packaging, bref, tout préparer pour que tout soit lancé le vendredi qui suivait. Donc le déconfinement, on l'a vraiment fait sur les chapeaux de roue.
Le déconfinement, moi je dirais que mine de rien, avoir un beau projet à la sortie qui nous occupe pas mal de temps par jour, ça aide nice. Déjà à accélérer un confinement. Et puis toujours, en ce qui me concerne, je pense que Capucine aussi, mais alors Capucine, elle a 3 enfants qui l'occupent bien en plus du travail.
En plus, donc... lancer un restaurant avec 3 enfants, c'est un joli défi.
C'est ça force à l'organisation, c'est très bien.
Surtout avec des jumelles de 2 ans. Non, ça, lecture, cuisine, saine et gourmande si possible, californienne au maximum. Et pour ça, d'ailleurs, on avait lancé pas mal de petites recettes à faire chez soi sur Instagram, des recettes californiennes, Cali Sisters, à faire chez soi pendant le confinement. Ouais. Oui, toujours pas mal de bouffe, finalement.
Ouais.
Mais effectivement, pendant ce confinement, je pense que ce qui nous a beaucoup animé, c'est ce que dit Juliette, c'est le fait d'avoir ce projet à la sortie qui nous anime depuis le début et où on savait que il y a une lumière au bout du tunnel. Donc celle-là, on la vise et ça nous anime au quotidien et ça nous a animé pendant tout le confinement. Nous, on a monté un restaurant parce que on adore la cuisine, on adore tout ce qui fait un lieu de vie, donc le design, la déco et l'humain. Et c'est des choses sur lesquelles on a pu un petit peu aussi se recentrer pendant le confinement. C'est que tout ce qui est cuisine, on a beaucoup cuisiné chacune de notre côté pendant le confinement. On a profité de nos familles et l'air de rien, depuis janvier, on était quand même pas mal prise par le projet. Donc, ça a permis aussi de prendre un petit peu de recul, réfléchir à l'avenir. Et ça, c'est jamais superflu, donc c'était une bonne chose pour ça.
En tout cas, on vous sent passionné par la Californie. J'imagine que vous avez l'habitude d'y aller régulièrement. J'espère que vous pourrez de nouveau y retourner, prendre l'avion pour y choper de l'inspiration. Et en tout cas, merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Ouais.
Super, merci beaucoup Philibert et Daniel.
Bah, merci à vous pour votre temps. C'était un plaisir d'apprendre plus sur Cali Sisters. On connaissait à distance, mais on n'avait pas forcément compris toute la démarche. Donc, c'est intéressant de bien comprendre. Bon courage pour les semaines à venir et aussi on vivement la réouverture des restos.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.